Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
C'est l'heure des enjeux internationaux.
Et oui, en vous écoutant, on comprend mieux comment sont faites les émissions du matin et peut-être les négociations européennes. Toujours pas d'accord en vue après le sommet européen consacré au Brexit mercredi. De réunion en réunion, le même blocage se répète entre les 27 et le Royaume-Uni. La séparation approche, sa réalité est repoussée. Bonjour Pauline Schnapper.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Merci beaucoup d'être venu, pardon, professeur de civilisation britannique à Paris 3. Alors, ce nouveau sommet et nouveau rejet du plan de Theresa May, on en parle tout de suite. Après l'humiliation du sommet de Salzbourg, hein, le ton était plus cordial cette fois, mais le résultat est le même. La possibilité d'un no deal devient plus forte et la stratégie de Theresa May perd de sa force. Elle, c'était le plan qu'on dit de Chequers, élaboré en juillet pour contourner le rétablissement d'une frontière avec l'Irlande. Ce plan bute toujours sur le refus de l'Union européenne avec deux positions qui paraissent inconciliables, ou bien sauvegarder l'intégrité du marché commun ou bien celle du Royaume-Uni. Ainsi, l'hypothèse d'un sommet final en novembre s'éloigne, un Brexit hard devient plus probable avec son potentiel de crise. Alors la Première Ministre se montre confiante, hein. Elle disait un accord qui ne serait pas seulement bénéfique aux intérêts du Royaume-Uni mais aussi de l'Union européenne, mais c'est vrai que dans un divorce, on a rarement vu, hein, Pauline Schnapper, les bénéfices mutuels du divorce. Alors s'il n'y a rien à gagner, ne s'agit-il pas surtout de se répartir la responsabilité, comme on le voit d'ailleurs là avec cette proposition finale de Theresa May de prolonger la période de transition d'un an, autrement dit repousser le problème de l'Irlande, cette fois accepté du bout des lèvres par l'Union européenne, pas rejeté en tout cas. Ça, c'est un progrès sur la forme par rapport à la dernière fois.
Alors oui, c'est une proposition, alors avec la réserve tout de suite qu'on n'est pas du tout sûr qu'elle obtienne l'approbation de son propre gouvernement et surtout de son propre parti pour cette prolongation. Les premières réactions dans la presse aujourd'hui, les premières réactions des députés conservateurs sont extrêmement négatives. Donc avec cette réserve, oui, l'idée éventuelle de prolonger la transition, c'est l'idée que en 3 ans plutôt qu'en 2, à peine 2, on aurait plus de chances d'aboutir à un accord de libre-échange sous une forme ou sous une autre, qui du coup ferait disparaître le problème de la frontière nord-irlandaise. S'il y a un libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il n'y a plus de problème de frontière, en tout cas pour les marchandises. Et du coup, ça permettrait d'escamoter la question nord-irlandaise sur laquelle on n'a pas de solution pour l'instant.
Et alors, quelle validité elle a aujourd'hui, cette idée? Vous avez vu ce qu'en dit Theresa May. C'est une idée qui lui est venue, dit-elle, jeudi. C'est ça qu'elle déclarait. Sachant, comme je le disais, que le précédent sommet avait été quand même un peu un camouflet pour elle, Theresa May.
Oui, le sommet Salzbourg s'était plutôt mal passé, même si il y avait en réalité pas de surprise, c'est-à-dire que les Européens disent la même chose depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas découper le marché unique, on peut pas avoir certains avantages du marché unique et pas en avoir aussi les contraintes. Donc il y avait pas en réalité pas de surprise du côté de la réaction européenne, mais Theresa May et son gouvernement s'étaient persuadés que les propositions qu'ils amenaient, dites propositions de Chequers, qui consistaient à donc rester dans un marché unique uniquement pour les marchandises et pas pour ni pour les services ni pour la libre circulation des personnes, que cette proposition donc serait acceptée facilement par les 27. Ce qui était quand même un peu étonnant. Et du coup, ils se sont trouvés humiliés quand les 27 leur ont dit « bah non, c'est pas possible ».
Oui, c'est ce qu'avait été appelé par la presse britannique, même l'embuscade de Salzbourg.
Voilà, terme qui montre bien que alors d'abord que la presse britannique ne regarde que son nombril, ne s'en rend absolument pas compte de ce qui se dit en Europe.
C'était le Daily Mail, je crois.
Voilà, mais peut-être plus grave encore que les élites politiques britanniques elles-mêmes méconnaissent ou ne comprennent pas bien l'argumentation, la logique qui est derrière la position des Européens.
Et alors, pour qu'on fasse pas de contresens, justement, selon vous, quel sens elle a eu cette rencontre très brève, hein, de 3h30 seulement, sommet extraordinaire pourtant mercredi dernier. On voit donc une proposition de Theresa May, Angela Merkel, qui dit que 90% de l'accord est prêt et a été négocié. Donc on est encore dans la négociation ou justement la recherche d'une façade honorable.
Oui, alors, il faut bien voir que l'accord dont on parle, les discussions qui ont lieu en ce moment, elles portent uniquement sur l'accord de transition. On n'est même pas dans la discussion sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, notamment commerciales. Là, les discussions sur la transition portaient, depuis un an et demi, sur 3 sujets. Les droits des citoyens britanniques résidents en Europe, et les droits des, surtout les droits des citoyens européens résidant au Royaume-Uni, d'une part. Donc ça, ça a été effectivement à peu près réglé. La deuxième question, c'était celle du budget, c'est-à-dire combien est-ce que le Royaume-Uni paierait comme solde de tout compte, si on veut.
Ça a été réglé, 50
milliards.
Ça
a été plus ou moins réglé, on parle de 50 milliards, sauf qu'évidemment, dans les tensions actuelles, certains anti-européens disent, mais on va pas continuer, on va pas payer s'il n'y a pas d'accord sur l'Irlande. L'Irlande, qui est donc le troisième point, la question de la frontière irlandaise qui devait normalement être réglée dans cette transition et qui en fait ne l'a pas du tout été et ne l'est toujours pas. Il n'y a toujours pas d'accord sur comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de frontière physique entre le Nord et le Sud sans pour autant créer une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste des îles britanniques, c'est-à-dire dans la mer d'Irlande. C'est soit l'un, soit l'autre.
Et alors, comme vous le disiez, question insoluble en droit, à moins justement de, disons, prendre les devants ou court-circuiter par un grand traité, un accord global de libre-échange. Donc cette idée du plan de Chequers obtenu un peu dans la douleur par Theresa May, puisque au prix de la démission, je crois, de deux ministres quand même. Qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui? C'est un geste de Theresa May envers son gouvernement pour assurer sa stabilité, ou c'est un plan qui a une chance d'être adapté, d'être accepté?
On
voit qu'il a été rejeté. Mais...
c'est un plan qui est quasiment mort, puisque les Européens n'en veulent pas. Donc déjà, il y a quand même, il avait été, comme vous dites, très difficile à faire accepter sur le plan interne. Il y a encore, toujours, beaucoup de gens qui n'en veulent pas, en particulier les Brexiteurs les plus ardents trouvent que c'était déjà une trop grosse concession à l'Europe et qu'il fallait couper les ponts totalement dès le 29 mars. Donc ils en étaient déjà mécontents, et les Européens l'ont, pour des raisons complètement différentes, l'ont rejeté aussi. Donc ça, je vois mal comment ils pourraient survivre. Si vous voulez, le point de départ et pour l'instant le point d'arrivée de la discussion, c'est l'idée du backstop qu'ont proposé les Européens, c'est-à-dire l'idée que si on ne trouve pas de meilleure solution, l'Irlande du Nord reste dans le marché commun. Ça n'est pas la première solution envisagée, c'est la dernière. C'est-à-dire, si on ne trouve rien de mieux. Mais même ça, même cette espèce de simple garantie ultime, est inacceptable pour les unionistes d'Irlande du Nord et pour leur relais dans le Parti conservateur à Londres.
Proposition, oui, c'est ça, et d'ailleurs toujours refusée par les Britanniques. Alors, quelle marge de manœuvre est là aujourd'hui, Theresa May? Au Parlement, on pourrait dire que c'est pas si mauvais, hein, c'est 316 députés conservateurs plus les 9 DUP unionistes irlandais, mais on a un peu l'impression qu'elle est acculée, finalement, elle qui dit « mon plan, sinon rien, le Brexit, c'est le Brexit ».
Oui, alors en fait, elle s'est effectivement mise elle-même dans une situation intenable, mais aujourd'hui, au point où on en est, la stratégie, si on peut appeler ça, c'est une stratégie qu'on voit, c'est ce qui s'est depuis 2-3 jours, c'est, on sent qu'elle a l'espoir de parvenir à un accord avec les Européens à la dernière minute, c'est-à-dire effectivement, même pas le mois prochain, mais peut-être en décembre, de façon si tardive qu'elle puisse rentrer à Londres et devant son Parlement, qui doit ratifier un tel accord, en disant, écoutez, c'est ça ou rien, il est trop tard pour discuter, il est trop tard pour amender, il faut que vous votiez ça, et c'est soit ça, soit le chaos, c'est-à-dire la sortie sans accord le 29 mars. Et elle a manifestement l'espoir que devant, dans cette situation un peu de panique à 3 mois du Brexit, elle trouve une majorité, non pas tant probablement avec ses propres députés, dont une minorité, mais enfin plusieurs dizaines probablement refuseraient ce vote, cet accord, mais auprès de certains députés travaillistes, pardon, soit représentants de circonscriptions qui ont voté pour le Brexit, et qui sont donc très prudents sur la question, même si eux-mêmes y étaient opposés personnellement, et d'autres qui, sans être partisans du Brexit, se disent qu'au point où on en est, c'est quand même la moins mauvaise solution. Donc c'est le pari qu'elle fait, je serais bien incapable de vous dire si elle a une chance de le remporter. L'arithmétique électorale, parlementaire, est très difficile à lire. Il suffit pas de dire il y a tant de députés conservateurs, tant de députés travaillistes, parce que là on fait exploser en réalité les partis habituels. On parle vraiment d'individus qui pourraient ou pas accepter de la suivre. Donc on est dans l'incertitude totale.
Ce qui voudrait dire autre hypothèse et peut-être début d'un scénario catastrophe, qu'elle pourrait être elle-même court-circuitée finalement par une chute de son gouvernement et des élections anticipées, parce que vous dites le Labour pourrait en partie voter avec elle, mais il y a aussi une forte partie du Labour qui milite pour un second référendum sur le Brexit. plébiscite, on l'a vu lors du congrès.
Oui, ou et alors du côté du leadership qui voudrait de nouvelles élections voilà. législatives.
Corbyn
l'a
dit.
Le parti est partagé là-dessus. Il y a ceux qui voudraient un deuxième référendum et ceux, surtout Corbyn et son entourage, qui veulent avant tout de nouvelles élections. Oui, tout ce que je viens de vous dire, c'est en supposant que Theresa May arrive à rester au pouvoir jusque-là. Mais on est en ce moment, on est vraiment au jour le jour, c'est-à-dire que les rumeurs courent dans tous les sens. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'il va y avoir une rébellion au sein de son parti? Tout est ouvert à l'heure où on se parle. On ne peut pas exclure que Theresa May ne soit plus au pouvoir en décembre. On peut pas l'exclure, voilà. Elle peut aussi bien arriver à rester, parce qu'on est dans une situation, on est quand même au milieu d'une crise. Est-ce que c'est le meilleur moment pour se débarrasser d'un Premier ministre et prendre sa place alors que personne n'a de solution au problème? On n'est pas sûr.
C'est ça, et comme je disais, grand potentiel de crise. En tout cas, Theresa May sommée d'être créative, comme le disait Donald Tusk. On aura l'occasion de suivre ça. Échéance, a dit Michel Barnier, en décembre. Merci beaucoup, Pauline Schnapper, pour aujourd'hui. Merci.